La cybercriminalité est le terme employé pour désigner l'ensemble des infractions pénales qui sont commises via les réseaux informatiques et notamment sur le réseau Internet. Parmi ces infractions sont concernées entre autres les atteintes aux biens, fraude à la carte bleue évidemment sans le consentement de son titulaire, vente par petites annonces de produits frauduleux ou autres escroqueries en tout genre et bien sûr le piratage des ordinateurs. Rencontre avec un enquêteur NTEC de la gendarmerie d'Arras dans les locaux de l'AGAEM qui abrite un cybercentre. Il était invité pour une soirée d'échange sur les méfaits et les dangers informatiques au quotidien.
Agent chef Frappard Laurent, chef de la cellule cyber de la gendarmerie du Pas-de-Calais basée à Arras. Et notre métier, c'est l'investigation sur les réseaux et l'analyse des supports numériques au profit de l'activité judiciaire.
Alors donc, vous êtes ce qu'on appelle un NTEC, ça veut dire quoi exactement ?
Alors c'est pas de nouvelle technologie parce qu'il n'y a plus rien de nouveau dans le domaine, c'est plutôt technologie numérique, donc c'est un enquêteur spécialisé et technicien en technologie numérique.
Donc vous venez de donner une conférence avec l'un de vos collègues hein, qui lui est de la police nationale mais qui fait un peu le même boulot que vous. La salle était quand même pleine. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce public ?
Alors c'est un public d'une certaine tranche d'âge supérieure à celle qu'on a habituellement, mais qui était particulièrement indiscipliné, mais non très sympathique, qui a posé énormément de questions. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de ce type d'intervention, c'est qu'il y a encore beaucoup de monde qui se pose des questions, et notamment les personnes les plus âgées qui n'ont pas été informées de toutes ces difficultés.
Vous disiez tout à l'heure au départ que dans le Pas-de-Calais, vous n'êtes que 3 hein, dans la gendarmerie et pour la police, ils sont que 4 à s'occuper de toute la région du Pas-de-Calais. C'est très peu quand même.
Alors c'est peu ramené au nombre de techniciens. En revanche, on a su s'adapter et former des personnels présents sur le terrain qui permettent d'être nos relais de première intervention. Après, il faut voir le volume de dossiers qu'on peut avoir et la technicité qui est nécessaire. Alors effectivement, plus, ce serait mieux. Pour l'instant, on arrive à faire face en fonction de nos impératifs de travail.
La cybercriminalité, c'est un domaine assez vaste hein, quand même. Quelles sont vos missions ?
Alors nos missions, c'est dans un premier temps tout ce qui est analyse de téléphone mobile, ordinateur, etc. pour apporter des preuves aux enquêtes judiciaires et à l'autorité judiciaire. Dans un second temps, c'est la veille sur Internet, les réseaux sociaux et toutes ces choses-là pour voir les comportements. On a également des missions d'accompagnement, de prévention et de conseil auprès de la population. Et derrière, j'ajouterai également tout ce qui est prévention plus destinée aux enfants en matière de pédopornographie et de prédateurs sur Internet.
Alors justement, en parlant de ce côté vaste un peu de la cybercriminalité, parce qu'il y a beaucoup de domaines, vous parlez de la pédopornographie, il y a aussi le cyberterrorisme maintenant. Est-ce que votre niveau d'intervention se résume à quelques domaines en particulier ou c'est vraiment tous les domaines de la cybercriminalité ?
Alors dans l'absolu, tous les domaines. Après, nous, on est tenu entre guillemets, à rendre des comptes à l'autorité judiciaire et on est tributaire de ce qu'ils nous ont demandé au niveau du parquet, au niveau des poursuites pénales. Donc, le procureur de la République est le seul à décider de la poursuite et de l'opportunité des poursuites. On fait en fonction des consignes qui nous sont données et également de nos possibilités. Après, il y a le critère d'urgence qui rentre en ligne de compte également. Effectivement, le cyberdjihadisme actuellement est un souci pour nous.
Devant ces inventivités, ces créativités que déploient justement ces cybercriminels hein, pour attaquer, vous aviez parlé de la traque et de la fraude sur Internet qui est très répandue. Quels sont les premiers pièges à éviter pour quelqu'un qui malheureusement ne maîtrise pas énormément l'informatique ?
Ben simplement, et très très simplement, le seul conseil que je puisse lui donner, c'est dans un premier temps de se former, de s'informer. Il y a autant de sites d'information que de sites escrocs, je dirais entre guillemets, hein, de se renseigner, d'éviter de croire tout le monde et surtout d'être moins naïf. C'est-à-dire que les gens au jour d'aujourd'hui croient un peu tout et se font avoir assez simplement sur des petits détails. Donc simplement, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec quelque chose, ne le faites pas.
Alors, notamment, il y a l'exemple du phishing. On reçoit énormément de mails. Tout le monde est un peu concerné par des mails qui nous viennent des impôts, qui nous viennent des banques, qui sont faux. Comment les signaler et sur quelle plateforme ?
Alors les signaler, vous pouvez les signaler notamment auprès des fournisseurs d'accès à Internet. Vous pouvez également signaler sur la plateforme nationale internet-signalement.gouv.fr qui est la plateforme qui reçoit tous les signalements au niveau français et ensuite les traite et les redirige localement sur les services compétents.
Et quels sont les premiers symptômes, hein, si je peux dire entre guillemets, de s'apercevoir que justement ces documents sont faux ?
Donc les documents, vous parlez de mail, y a des petites pistes. Hein. Généralement, votre gestionnaire de mail vous prévient normalement quand il y a un comportement un peu suspicieux. Donc déjà, s'il vous prévient, c'est qu'il ne faut pas aller plus loin. Si on va un petit peu plus loin, on va regarder les fautes d'orthographe, le contenu, la logographie et également tout ce qui est lien internet qui est associé. En passant simplement sa souris sur le lien, on voit apparaître en bas le vrai lien qui apparaît, puisque généralement c'est un leurre. Et là, on va voir qu'on ne va pas retomber sur la page des impôts ou de votre banque.
Alors, il y a aussi le système de carte bancaire hein, qui est assez privilégié par ces cybercriminels. Quels sont leurs modes, on va dire, de fonctionnement les plus répandus ?
Alors, le plus simple, c'est justement de vous contacter par phishing pour obtenir de votre part le numéro en vous faisant croire que vous allez gagner de l'argent, récupérer de l'argent sur un abonnement quelconque. Ensuite, on a les techniques liées à ce qu'on appelle le skimming, donc la pose d'appareil sur des distributeurs de billets ou pompes de stations-service pour copier la carte et le code par ailleurs. Et également, au jour d'aujourd'hui, méfiance sur tout ce qui est utilisation des cartes sans contact pour lesquelles on n'a pas suffisamment de retour. On sait qu'on peut récupérer certaines informations, mais on n'a pas suffisamment de recul pour savoir jusqu'à quel niveau on peut générer de l'escroquerie ou du vol d'informations.
Les banques qui donnent ces cartes, est-ce qu'elles organisent de leur côté des critères justement pour empêcher que ces cartes, vu l'inventivité encore une fois des criminels qui arrivent à détecter à distance avec des modèles de téléphones super perfectionnés, des détecteurs, est-ce que les banques vous aident quand même ou est-ce que vous avez des concertations avec justement des grandes banques pour dire attention à ces cartes bancaires ?
On a des rencontres, pour ma part j'ai déjà participé à des réunions avec des gens des banques, en revanche eux ont leurs impératifs marketing et commerciaux, nous on a des impératifs de rendu à la victime et de suivi des enquêtes judiciaires, donc forcément les deux mondes ne vont pas forcément ensemble, donc eux ont quand même mis des pare-feux qui sont notamment pour les cartes sans contact des limites à 6 achats de 25 euros à peu près par jour. En revanche, ce qui ne nous plaît pas ou moins, c'est que effectivement, ces 6 achats par carte, si on pirate 50 cartes sur la journée, 6 achats par 25 euros par 50 cartes, ça fait déjà une somme. Donc par victime, ça fera beaucoup moins, mais par banque, ça fera beaucoup plus.
Alors, quel est le système qui est mis en place par ces cybercriminels, ces spécialistes, pour justement arriver à prendre vos données bancaires, même si c'est à distance ?
Alors simplement, en utilisant un simple smartphone avec une application, on peut récupérer beaucoup d'informations sur la carte. Bon, après, il y a une distance de lecture entre les deux qui est quand même assez courte. Il faut être assez proche de la personne. On n'est pas non plus dans l'âge mûr de ce type de matériel ou de ce type d'escroquerie. Je pense que pour l'instant, on allume des contre-feux en disant « attention, ça pourra arriver ». On n'a pas d'exemple concret, encore une fois, pas assez de recul. Maintenant, on l'a vu au cours de la démonstration qu'on a pu faire aujourd'hui, que la maturation fait que les escrocs s'adaptent et inventent de nouveaux dispositifs et vont toujours plus loin dans leur recherche.
Et du coup, comme c'est une technologie qui est assez récente, c'est énormément les jeunes qui sont touchés et qui sont peut-être même en danger par rapport à ça. Est-ce que vous faites des interventions justement dans les écoles, dans les structures scolaires pour les alerter ?
Alors pour les jeunes, c'est pas nous qui le faisons directement, il y a des entités dédiées à ce type de service. Pour chez nous, la gendarmerie, c'est la brigade de prévention de la délinquance juvénile qui va les voir, où on va traiter effectivement de toutes ces informations. Grosso modo, pour nous les jeunes, la problématique, c'est pas tant la sécurité en elle-même en réel, puisque par exemple, régler une page Facebook en termes de critères de sécurité, ils savent très très bien le faire. Ce serait peut-être même à eux de donner des conseils à leurs parents à ce sujet. En revanche, là où ils sont plus concernés, c'est tout ce qui regarde la sécurité de la vie privée. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les conséquences de dévoiler autant d'informations à l'extérieur de manière totalement publique. Donc derrière, ils ne voient pas les conséquences qui peuvent arriver. L'exemple type, c'est le selfie. Les jeunes filles ou jeunes garçons qui se prennent en photo en selfie le mettent et sont fiers de le mettre, mais quand ils se retrouvent après en photo sur un site pornographique et que tout le lycée l'apprend, ça devient catastrophique pour eux. Les conséquences sont dramatiques.
Alors la cybercriminalité, ça vient aussi de l'étranger, notamment via des sites de rencontres, mais pas que, hein, de l'étranger. Comment ça se passe ? Quels sont les premiers pièges à éviter ? Même si là, on sait très bien qu'il ne faut pas du tout être naïf.
Ah, vous l'avez résumé, simplement un peu moins de naïveté, un peu plus de regard et de vigilance. La personne que vous avez en face de vous, malgré qu'elle soit agréable au regard et charmeuse dans son discours, n'est peut-être pas celle que vous croyez.
Pour résumer, une dernière question peut-être, est-ce que selon les ordinateurs par exemple qui sont attaqués, est-ce que vous avez constaté que éventuellement les PC qui étaient avec Windows et les Macintosh ou les Linux encore, il y a une différence, il y a des ordinateurs qui sont plus fiables que d'autres ?
Alors, je ne vais pas rentrer dans des critères purement marketing et ni dans des guerres de geeks entre différentes machines. En revanche, il y a une chose qui est sûre pour moi, c'est que généralement la faille se situe entre la chaise et l'écran, et c'est pas tant la machine le problème, c'est surtout l'utilisation qui en est faite.
Peut-être dans le Pas-de-Calais, un chiffre peut-être pour rendre compte un peu de cette cybercriminalité, ça touche combien de gens à peu près
Alors c'est plus que difficile à dire dans le sens où tout le monde ne vient pas nous voir. On en a énormément qui viennent nous voir pour des critères plus ou moins fondés, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais par exemple les gens qui se sont abonnés volontairement à des sites pornographiques et qui après viennent nous voir pour se désabonner parce qu'ils n'y arrivent plus, je considère que ça n'est pas une atteinte cyber. En revanche, dans le type de critères au niveau infractionnel, ça rentre dans ce cadre-là. Et à l'inverse, on a des gens qui ont trop honte de leur situation pour venir nous voir. Donc, vous donner un chiffre, c'est compliqué. Je pourrais vous donner des chiffres sur le nombre de disques durs qu'on peut traiter, le nombre de téléphones qu'on fait à l'année, etc. Mais ça ne veut rien dire comparativement au flux migratoire qu'on peut avoir sur le département et lié aux infractions et à toute l'activité qu'on peut avoir, nous, sur un seul département.
Et vous n'intervenez vraiment que quand les personnes sont ciblées ou qu'il y a des signalements. Vous n'intervenez pas dans les ordinateurs des gens, etc. On sait très bien qu'il y a une grosse polémique en ce moment avec cette fameuse loi sur les renseignements, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Que moi j'agis dans le cadre judiciaire avec généralement l'autorisation du procureur de la République sur la base d'une infraction qui a été générée avec une enquête qui est constituée. Donc on agit dans un cadre tout à fait légal et entouré par l'autorité judiciaire. Donc, je n'agis certainement pas dans un cadre totalement illégal et hors cadre.
C'était un entretien avec l'adjudant-chef Laurent Rappard, chef de la cellule en charge de la cybercriminalité à la gendarmerie d'Arras. Il donnait une conférence dans les locaux de l'association LAGAEM à Arras.